aluvifanye, aluvifanye, aluvifanye.
Possède la radio et la télévision.
On ne peut pas savoir où on est ni où on va si on ne sait pas d'où on vient. Pas besoin d'être un grand savant pour s'intéresser à l'histoire, la géopolitique ou l'économie. Surtout quand c'est expliqué par une bande de profs d'histoire géo qui n'ont pas la langue dans leur poche. Des exposés parfois assez différents de ce qu'on nous dit à l'école et dans les médias dominants. L'histoire, la géopolitique et l'économie s'intéressent à vous. Intéressez-vous à elles les samedis à 12h sur Radio G. Avec Polémix et la voix off.
Le pouvoir possède la radio et la télévision.
Eh bien, c'est maintenant le grand rendez-vous.
Nous comptons sur la bonne volonté et sur la compréhension de tout le monde.
La voix off.
Je vous ai compris.
L'Algérie, c'est la France. L'Algérie, c'est la France.
Les origines de la Ve République, c'est quand même une république qui est née dans les complots barbouzards, dans la violence et dans l'arbitraire. Aujourd'hui, c'est insupportable pour beaucoup de gens. La revendication d'un changement de république va devenir majoritaire en France, c'est certain.
Mais aussi, ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Résurrection, résurrection, résurrection.
L'histoire que nous allons raconter est pleine de complots et de comploteurs. Désolé, c'est de l'histoire. Il y a des complots. Et c'est par un complot que De Gaulle est arrivé au pouvoir et a changé la République et a institué un système quasi monarchique.
Est-ce que j'ai jamais attenté aux libertés publiques fondamentales? Je les ai rétablies. Et ai-je une seconde à tenter? Jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur? Je commence une carrière de dictateur. Résurrection, 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 résurrection.
Salut les amis. Peu démocratique, la Ve République. Et pour cause, la Ve République est née du coup d'État militaire de 1958. Sans faire tirer un coup de feu, De Gaulle, héros de l'appel du 18 juin 1940, le général devient un dictateur en 58 en se servant de la menace d'un putsch auquel il participe. C'est la deuxième fois en 18 ans que les députés français abdiquent devant un militaire. En 1940, c'était pas devant un général, mais devant un maréchal. Ce coup d'état militaire de 58 éclate pendant la guerre d'Algérie qui s'étale de 1954 à 1962. Conquise en 1830, l'Algérie d'alors, c'est la France. Trois départements français, mais où perdure le régime colonial. 1954, déclenchement de l'insurrection algérienne du FLN, le Front de Libération Nationale. La 4ème République va pourrir dans cette guerre coloniale qui ne dit pas son nom. On dit alors les événements d'Algérie. Les complots pour abattre la 4ème République prolifèrent. Militaires factieux, souvent d'extrême droite, agitateurs fascistes, ultras de l'Algérie française, petits pieds noirs affolés, et les réseaux gaullistes qui vont utiliser tous ces autres comploteurs pour permettre à De Gaulle d'arriver au pouvoir sur les épaules des parachutistes, de mettre fin à la 4ème République et d'instaurer ce régime de monarque présidentiel de la 5ème taillé pour et par lui. C'est ce que notre ami André, le prof d'histoire géo, nous expliquait au premier épisode de cette sinistre histoire. Salut André.
Bonjour à tous.
Alors André, le 13 mai 58, soutenu par divers groupuscules de comploteurs, des militaires rebelles, infiltrés par les agents de De Gaulle, font un putsch, prennent le contrôle de l'Algérie, qui qui devient une colonie en sédition depuis laquelle les putschistes menacent la métropole et donc la République d'un renversement par les armes.
Je rappelle les protagonistes de cette affaire algérienne. Il y a le gouvernement à Paris, il y a l'armée qui a fait sécession le 13 mai, c'est-à-dire que l'Algérie n'obéit plus au gouvernement de Paris. En Algérie même, il y a à droite encore de l'armée, il y a des ultras, des gens d'extrême droite, et puis il y a les réseaux gaullistes, aussi bien en Algérie qu'en France. On pourrait rajouter d'ailleurs un autre protagoniste très important dans cette affaire algérienne, le PCF, le Parti communiste, qui se détache très nettement des autres partis politiques en France. L'armée, donc, est travaillée par les réseaux gaullistes, mais aussi travaillée par l'ultra-droite. Disons qu'il y a une course entre les deux. Alors évidemment, les réseaux gaullistes sont mieux armés que les ultras, parce qu'ils ont des relais directement dans le pouvoir politique en France, au ministère de la guerre, dans l'état-major, et trucs comme ça. Et cette armée qui a pris le pouvoir en Algérie supplie de Gaulle d'intervenir, de sortir de l'ombre en quelque sorte, et de se déclarer. Et en même temps, met au point un plan de subversion, de putsch militaire en France. C'est-à-dire débarquement de troupes aéroportées venant d'Algérie et en s'associant avec des unités de CRS et de gendarmes, prendre le pouvoir en France, faire un coup d'État. Donc c'est très au point ce truc-là.
Mais est-ce que De Gaulle fait partie du complot ou est-ce que vraiment, c'est comme on nous le raconte, les militaires sont venus le chercher et puis finalement il décide de faire don de sa personne parce qu'il est Jeanne d'Arc et Vercingétorix à la fois, ou est-ce qu'il fait partie du coup ?
Non, bien sûr il fait partie du coup. Dans un premier temps, il va faire tous ses efforts pour ne pas avoir à faire appel à l'armée, à venir au pouvoir sur les épaules des paras. Et ensuite, après, une fois au pouvoir, il va faire tous ses efforts pour fabriquer une légende et apparaître comme le sauveur de la situation et non pas comme une personne qui a comploté dans l'ombre pour abattre le régime républicain et mettre une autre constitution à la place. Mais bien sûr qu'il est au courant. Des contacts sont pris, on sait, avec les gens qui sont responsables de cette situation. Bien sûr, c'est très discret. Parfois, c'est même pas De Gaulle directement, c'est les secrétaires de De Gaulle, comme Guichard, Frey, Focard, Debré, etc., qui prennent contact avec les militaires et ensuite rapportent à De Gaulle. Mais De Gaulle se tient au courant en permanence, évidemment. Il est dans le coup. C'est pas quelqu'un qu'on vient chercher comme ça, j'offre ma personne. Alors, justement, nous allons parler de la conférence de presse de De Gaulle du 19 mai. Il sort donc de son ermitage de Colombey-les-Deux-Églises et se rend à l'hôtel d'Orsay. Et le ministre de l'Intérieur, moche, comme vous voulez, de la SFIO, ministre de l'Intérieur, va mettre à la disposition pour protéger cette conférence de presse 10 000 flics. Alors bon, De Gaulle, dans cette conférence de presse, reprend sa diatribe contre le système parlementaire, dit voilà, la situation est grave, mais il pourrait y avoir quand même une sorte de résurrection.
Ce peut être le début d'une espèce de résurrection. Résurrection, résurrection, résurrection.
D'ailleurs, le mot résurrection va donner son titre au coup d'État à l'opération résurrection qui ne s'appelait pas comme ça au départ. Bon, alors bien sûr, il rappelle son sauvetage de la France en juin 40, etc. Et il demande des pouvoirs exceptionnels de devenir dictateur.
Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?
Je ne vais pas commencer une carrière de dictateur. Ce qui est d'ailleurs assez faux cul, quoi. Parce qu'effectivement, ce qu'il demande, c'est des pouvoirs dictatoriaux. C'est des pouvoirs de dictateur. Il va d'ailleurs prendre tous les pouvoirs. Or, une dictature dans la République romaine, c'était un magistrat à qui on donnait tous les pouvoirs civils, militaires, judiciaires, etc. pour régler un problème gravissime lorsque la République était en danger, envahie par les Gaulois ou par n'importe quel ennemi qui risquait de mettre en cause l'existence même de la République. Donc, une dictature qui était d'ailleurs provisoire, hein, puisqu'ensuite après, bon, le consul ou magistrat qui prenait cette dictature devait ensuite après la déposer puis revenir dans le rang en quelque sorte. Hein. Maintenant, nous allons parler du gouvernement de Pierre Pflimlin MRP, enfin, démocrate chrétien. Ce Flim-là en question est un homme, certes, qui a un certain courage, mais en fait, il pète de trouille quand même devant les officiers d'Alger et devant le danger de guerre civile. Et pendant toute cette période qui va du 19 mai jusqu'au... les choses sont pliées le 29 mai, quoi. Donc, période de 10 jours, ce gouvernement tergiverse l'armée. Et les réseaux gaullistes laissent fuiter des trucs comme quoi il va y avoir un coup d'État, etc. Et donc, De Gaulle va en quelque sorte déstabiliser la République en faisant peur aux dirigeants d'un coup d'État. Alors face à ce danger de coup d'État, alors bien sûr les communistes demandent un front républicain et veulent faire l'alliance avec la SFIO, mais la SFIO et tous les autres partis vont se dérober. Ils ne veulent pas de l'alliance avec les communistes.
Surtout pas.
Surtout pas, parce qu'en fait c'est eux qui vont en profiter et tout, s'il y a la guerre civile. En fait c'est la peur des communistes, autant que la peur de l'armée, qui va désarmer la République face au coup d'État des généraux. Alors depuis le 15 mai, donc les militaires, enfin certains militaires, élaborent un plan d'action sur Paris. Hein, c'est Robert Vitas et Roger Miquel qui sont à la tête de cette opération. Vitas est un chef d'escadron et Roger Miquel, c'est un général qui tient la région sud-ouest où il y a des unités de parachutistes en France. Alors ça, cette opération Résurrection met en action aussi le responsable de la DST, Direction de la Surveillance du Territoire, qui s'appelle Roger Vibeau. Bien sûr, le 21 mai, Vitas, Lefranc, Focard, etc., c'est-à-dire le réseau gaulliste militaire et civil, mettent tout le monde au courant, tout le monde est au courant dès le 21 mai. Et on peut dire même que les services spéciaux du gouvernement sont également au courant de cette préparation. Pas dans les détails, mais ils savent qu'il y a en préparation un coup d'État. Et de toute façon, que peuvent-ils faire ? Lorsque Flimelin demande à ses hauts fonctionnaires, mais qu'en est-il de l'état d'esprit de la police, de l'armée, etc., tout le monde lui répond, oh là là, on peut pas faire, s'il y a un coup d'État, ils vont tous nous claquer entre les pattes et ils vont rejoindre le coup d'État. Alors il y a une part d'intoxication de la part des réseaux gaullistes, mais enfin il y a aussi une part de réalité, c'est vrai, il y a un noyautage des directions de la police, des CRS, etc., en même temps que de l'armée par les réseaux gaullistes. Alors pour presser les hommes politiques et le gouvernement de céder à De Gaulle, le 29 mai, des gaullistes et des paras occupent Ajaccio. Ils font une sorte de petite répétition, de petit exemple en plus petit, hein, de ce que pourrait être une opération subversive sur la France. On va seulement occuper la Corse. Ajaccio est occupé. D'ailleurs, à Bastia, le maire socialiste résiste, ne veut pas rendre sa mairie, etc. Mais enfin, les CRS sont désarmés par les militaires, quand même. Le ministre de l'Intérieur à Paris, Jules Moche, propose de s'y opposer, mais Mollet et Flimelin s'écrasent. Guy Mollet, qui est un des principaux dirigeants de la SFIO, mais il n'est pas le seul, hein, va s'écraser, se coucher devant De Gaulle et permettre l'accession sans problème de De Gaulle au pouvoir. D'ailleurs, Guy Mollet envoie une lettre alambiquée à De Gaulle, une sorte d'imploration tordue pour dire oh, mon cher général, vous allez pas faire un coup d'État, et puis ce serait grave une guerre civile parce que les communistes pourraient prendre le pouvoir. Enfin bon, l'obsession anticommuniste de Mollet était infinie. Alors, le Parti communiste et la CGT appellent à une manif et une grève générale le 27 mai pour contrer ce danger de coup d'État. Alors la position de la SFIO est, comme d'habitude, ambiguë. Il y a des gens à la SFIO qui voudraient bien aller manifester avec les communistes et la CGT, etc. Mais d'autres, non, il ne faudrait pas faire le jeu des communistes et de la CGT, etc. Le 26 mai, d'ailleurs, juste avant la manif, hein, Flimelin rencontre De Gaulle en secret. Et là, De Gaulle, il va faire un coup un peu génial. Il rassure Flimelin pendant cet entretien un peu secret, quoi. Enfin, secret, mais enfin, un peu fuité, quoi. Il dit à Flimelin, la Corse, c'est un vaudeville, c'est une comédie. Bon, donc, discrètement, il désavoue, etc. Alors que ce sont ses réseaux qui ont fait truc en Corse. C'est très faux cul, toi. Il dit à Flimelin, oui, non, c'est pas sérieux, la Corse, etc. Mais en fait, la stratégie de Gaulle est claire. Hein. Il s'agit d'obtenir la capitulation du régime parlementaire grâce à une pression extérieure, c'est-à-dire les militaires et le danger de coup d'État. Lui-même fomenté par les réseaux gaullistes. Hein, et de Gaulle en avait pleine connaissance. Bon. Et alors, le lendemain de cette grève générale et de cette entrevue avec Flimelin, où il ne s'est rien passé, hein, de Gaulle fait une déclaration. « J'ai entamé un processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain capable d'assurer l'unité et l'indépendance du pays. » C'est faux, évidemment. Jamais Flimelin a entamé un processus comme quoi de Gaulle pourrait devenir président du Conseil et former un gouvernement. Donc Flimelin, il est trompé. Il voudrait bien démentir. Et Coty, le président de la République, et Guy Mollet, les principaux dirigeants SFIO, le dissuadent de démentir pour pas provoquer une guerre civile avec les militaires. Donc il se couche, en quelque sorte. C'est le début du processus de l'arrivée de De Gaulle au pouvoir. Parce que il dit, voilà, j'ai entamé un processus. Donc avec l'accord du président de la République et l'accord du président du Conseil, on va refaire un gouvernement d'unité nationale, de salut public, en quelque sorte, à Paris. Le défaitisme de la SFIO, du Parti Socialiste, est très visible. Hein. Guy Mollet, Jules Moc envoie un petit message discret à De Gaulle en disant, bon, en cas de coup d'État des militaires, le gouvernement est incapable de résister. C'est un véritable encouragement à De Gaulle. Le soir du 27 mai, bon, il y a un vote à l'Assemblée, mais les partis politiques refusent toujours de s'associer avec le PCF. Si les partis, la SFIO, le MRP s'étaient associés avec le PCF, De Gaulle n'a pas la majorité. Donc la majorité refuse en quelque sorte la pression de De Gaulle pour arriver au pouvoir. Mais Flimelin va se coucher, comme le président de la République lui a demandé. Donc Flimelin, président du Conseil, donc premier ministre, chef du gouvernement, présente sa démission. Et alors, il y a une grosse manifestation le 28, 200 000 personnes manifestent avec Mitterrand, Mendès, avec les dirigeants du PCF, etc. Comme en 1934 pour sauver la République, etc. Bon, ça servira à rien du tout, hein. Parce que il y a toujours cette ambiguïté, c'est-à-dire le refus de s'associer avec le PCF dans un front de défense républicaine contre le putsch de Gaulle qui ne dit pas son nom. Voilà ce que dit De Gaulle. « Je ne veux pas apparaître tout de suite pour ne pas sembler revenir du seul fait de cette action de force, c'est-à-dire de ce qui s'est passé à Alger, hein, et de la sécession des militaires. Après quelques jours, je veux être appelé comme un arbitre venant, à la demande de tout le monde, prendre la direction du pays pour lui épargner des déchirements inutiles. Il faut que j'apparaisse comme l'homme de la réconciliation et non comme le champion d'une des factions en train de s'affronter. » Vous voyez le souci, hein, deux fois le mot apparaître, apparaisse. Pour De Gaulle, c'est très important, l'image qu'il donne. Non pas le rôle réel, mais l'image qu'il en donne. De Gaulle veut apparaître, il construit déjà la légende qui va être dans tous les manuels d'histoire, c'est-à-dire l'homme qui arrive pour régler le problème, alors que c'est lui-même qui a créé le problème, la crise. Très clairement, la situation de crise grave dans laquelle est la République, alors je ne dis pas que De Gaulle en est à 100% responsable, disons qu'à partir de 1956, très clairement, les réseaux gaullistes, et donc De Gaulle, s'arrangent pour avoir une situation de crise et une situation de recours pour sauver la République et sauver la situation. Très rapidement, je vous donne les étapes. Le 29 mai, De Gaulle se rend à l'Élysée, c'est-à-dire rencontre le président de la République, de façon à pouvoir former un gouvernement. Le 30 mai, Guy Mollet, la SFIO, se couchent. Ils vont à Colombey, ils disent oui, on est d'accord, vous pouvez y aller. Le 31 mai, De Gaulle reçoit tous les dirigeants des partis politiques, sauf le PCF, en vue de former un gouvernement d'union nationale. Alors Guy Mollet pour la SFIO, Pinet pour la droite réactionnaire, deviennent ministres d'État tous les deux. Donc du Parti Socialiste jusqu'à la droite, vous voyez. Hein. Et c'est le 1er juin, De Gaulle va faire son discours devant l'Assemblée nationale, un discours d'investiture pour demander que les députés l'investissent, c'est-à-dire le désignent comme chef du gouvernement, en quelque sorte, et acceptent son gouvernement. Alors bon, il y aura un débat où Pierre Mendès France et François Mitterrand font assaut d'éloquence, etc., de rhétorique, etc., mais enfin bon, ça passe quand même. Hein. Il va passer de Gaulle à 329 voix contre 224. 224, qu'est-ce qu'il y a ? Il y a essentiellement le PCF, plus quelques voix de la SFIO, de l'UDSR et des radicaux. Mais enfin bon, c'est une assez bonne majorité que de Gaulle reçoit les pleins pouvoirs. Non seulement il devient président du Conseil, chef donc de l'exécutif de la 4ème République, nous sommes encore dans la 4ème République, hein. Il est le dernier chef du gouvernement de la 4ème République. Il n'est pas encore premier président de la 5ème République. Hein. Nous sommes seulement le début juin 58. Il a également les pleins pouvoirs pour changer la Constitution, c'est ce qu'il a demandé. Il a demandé les pleins pouvoirs pour changer la Constitution et régler le problème algérien. Ça marche ensemble.
Bonjour et vive la France, mon général de Gaulle, soyez le bienvenu, après voilà 12 ans. Garçons et filles, pelotons, escadrilles, se rallient à votre commandant. Nous sommes tous présents, têtes brûlées d'Afrique, résistants d'avant-hier et soldats d'aujourd'hui, pour crier avec vous, vive la République, et qui pourra défaire le sang qui nous unit. Dire non la lèvre, avec l'Algérie française, avec la Suède salant. Dire non la lèvre, avec l'Algérie française, avec la Suède salant.
Alors il se rend à Alger le 4 juin, et là il fait une tournée assez triomphale, parce qu'en fin de compte, une partie importante des pieds noirs et l'armée ont demandé que de Gaulle vienne au pouvoir, parce qu'en fait ces gens, c'est là la grande ambiguïté dès le départ, une grosse ambiguïté, ces gens attendent que de Gaulle maintienne l'Algérie française, continue en quelque sorte la guerre, élimine le FLN, fasse la guerre. C'est pourquoi de Gaulle est arrivé au pouvoir,
et c'est là le fameux je vous ai compris qui a rendu en erreur les gens qui ont bien voulu y entendre ce qu'ils avaient envie d'y entendre, en fait.
Oui, c'est ça.
Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici.
Il est très habile, parce que je pense que dès le départ, de Gaulle veut prendre ses distances à l'égard des ultras d'Algérie, d'une partie de l'armée et des pieds noirs, parce que cette guerre d'Algérie gêne ses projets de rénovation de la France, de modernisation, etc., etc. Et donc, il ne veut pas s'engager. Alors, il va dire à Alger, je vous ai compris, aux Algérois, européens qui sont là, et algériens aussi, qui l'acclament. Mais je vous ai compris, ça veut dire quoi ? C'est rien du tout, hein, on ne sait pas.
Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité.
Il va quand même crier « Vive l'Algérie française » dans un petit bled des environs d'Alger, mais assez discrètement en fin de compte.
Vive mon Staganem ! Vive l'Algérie française !
Ça va un peu rassurer quand même les militaires qui se méfient déjà. Il y a aussi des militaires qui déjà, et des ultras qui se méfient de Gaulle, pensant que c'est pas un gars très solide. Il y a déjà une petite méfiance, une petite fêlure dans le front qui a amené de Gaulle au pouvoir, en quelque sorte.
Merci du fond de mon cœur, c'est-à-dire du cœur d'un homme qui sait qu'il porte une des plus lourdes responsabilités de l'histoire.
Évidemment, c'est compliqué d'être à la place de De Gaulle et de se dire ce qu'il pense, mais est-ce qu'on peut pas imaginer qu'en fait, il a bien compris que l'Algérie française, c'est cuit, que cette guerre d'Algérie est un bâton merdeux dont il faut se débarrasser au plus vite. Donc, comment se débarrasser de cette colonie, mais tout en gardant la main mise sur le gaz, le pétrole qu'on a découvert dans le désert, et puis conserver aussi des sites pour faire des expériences de bombes nucléaires.
Nos intérêts, c'est la libre exploitation du pétrole et du gaz que nous avons découvert ou que nous découvririons.
Comment se dégager de l'Algérie française tout en gardant quand même le gaz et le pétrole? Est-ce que De Gaulle n'a pas déjà scellé le sort de cette colonie? D'ailleurs, en 1959, De Gaulle va organiser un référendum dont la question est l'autodétermination sur le sort de l'Algérie. Mais avant ce référendum de 1959, De Gaulle fait confirmer son putsch par un premier référendum organisé en 1958.
Ce premier référendum de De Gaulle, c'est en même temps un plébiscite pour De Gaulle et en même temps l'approbation des projets constitutionnels et politiques de De Gaulle concernant l'Algérie. De Gaulle poursuit la guerre. La guerre d'Algérie va se prolonger 4 ans, entre 58 et 62. Je dirais même que les événements les plus graves de la guerre d'Algérie, ça se passe sous De Gaulle. Donc quand on dit un peu rapidement dans les manuels que De Gaulle a mis fin à la guerre d'Algérie, faudrait quand même un petit peu nuancer. En réalité, De Gaulle poursuit la guerre d'Algérie parce que quel est son but à De Gaulle? Il est de négocier avec le FLN en position de force. D'ailleurs, pendant toute une partie de cette période 58-62, De Gaulle voudrait bien séparer l'Algérie du Sahara. Le but de De Gaulle serait de garder le Sahara, très intéressant sur le plan du pétrole, des essais nucléaires, etc. Grosse partie du Sahara, la France aurait bien voulu garder la main là-dessus. D'ailleurs, elle gardera en partie la main. À l'issue des négociations de la fin de la guerre d'Algérie, elle va garder le contrôle, en au moins quelques années, le contrôle du pétrole. Pétrole et du gaz naturel extrait en Algérie.
Je m'engage à consulter les Algériens au sujet du destin qu'ils veulent adopter.
C'est là que va se poursuivre la guerre civile, évidemment, dès que les pieds noirs et l'armée, une partie de l'armée, se rendent compte que De Gaulle est en train de négocier avec le FLN et décider à parvenir à l'autodétermination en Algérie. De Gaulle n'utilise pas le mot indépendance ni autonomie. Et il parle de autodétermination. Clairement, les gens comprennent. Hein. Ça veut dire qu'il faut aller vers un processus d'indépendance du territoire algérien à l'égard de la métropole française. Et c'est inacceptable, ça, pour les trois quarts des Européens d'Algérie et une partie importante de l'armée. Ces gens ont porté De Gaulle au pouvoir pour qu'ils maintiennent la présence française en Algérie. Et De Gaulle annonce en 59, dans une conférence de presse extrêmement célèbre, qu'il va y avoir un processus menant à l'autodétermination du peuple algérien. Et d'ailleurs, il va procéder à nouveau à un autre référendum plébiscite pour demander l'opinion, aussi bien en métropole qu'en Algérie. Êtes-vous pour ou contre ce processus d'autodétermination? Et là, à nouveau, De Gaulle reçoit une approbation massive des gens en France. Les gens ne veulent plus de la guerre d'Algérie. Et donc, ils répondent oui à De Gaulle.
Compte tenu de toutes les données algériennes, nationales, internationales du problème, je considère comme nécessaire que ce recours à l'autodétermination soit proclamé aujourd'hui. Le sort des Algériens appartient aux Algériens.
Donc De Gaulle est légitimé dans son désir de négocier avec les dirigeants du FLN. C'est un discours très célèbre où il dit « il faudra laisser les couteaux au vestiaire ». Ce que voudrait bien De Gaulle, évidemment, c'est négocier plus calmement alors que la guerre se poursuit. En fait, la guerre se poursuivra tout le temps. Il n'y aura pas d'interruption de la guerre, aussi bien du côté français que du côté des nationalistes algériens. Partie de l'armée s'aperçoit, et surtout les Européens d'Algérie s'aperçoivent que on est en train de leur faire un enfant dans le dos. Alors là, ils veulent faire tomber De Gaulle, comme ils ont fait tomber la 4ème République. De la même manière, c'est-à-dire que les ultras d'Alger, avec Joseph Ortiz, la Gaillarde, enfin bon, tout disons l'expression la plus extrémiste, droitière ultra de la population européenne, manifeste contre De Gaulle. C'est la fameuse journée des barricades. Ils essayent de faire une sorte d'insurrection à Alger et dans les villes algériennes contre le gouvernement légal de Gaulle.
Unité territoriale et tous les patriotes d'Alger annoncent grève générale illimitée.
Les hommes de la Gaillarde, les UT et la milice de Joe Ortiz constituent un camp retranché.
Nous irons jusqu'au bout. L'Algérie doit choisir. Il faut vaincre ou mourir.
La semaine des barricades, De Gaulle réagit extrêmement rapidement. Il envoie des escadrons de gendarmes mobiles qui tirent à balles réelles sur les manifestants ultra d'Alger, etc. Il a la légitimité pour lui. Lui, contrairement à la 4ème République, qui va toujours se coucher devant les ultras et devant l'armée, De Gaulle, lui, il en envoie à Alger des troupes sûres, en quelque sorte, de gendarmes qui répriment très brutalement, oblige les commerçants à rouvrir leur commerce, etc. Il réprime cette journée des barricades. Mais il va à nouveau être en butte à une tentative, cette fois-ci beaucoup plus dangereuse, de déstabilisation qui va venir de l'armée. C'est-à-dire qu'une partie de l'armée, très déçue par De Gaulle, les plus extrémistes, les plus ultras, ceux qui s'étaient engagés en quelque sorte dans le maintien de la guerre en Algérie et qui, en plus, avaient, pour certaines parties de l'armée, s'étaient engagés dans un plan d'assimilation des populations algériennes. Pour De Gaulle, c'est impensable de faire l'assimilation, c'est-à-dire de transformer la population algérienne en population française. Il y a 10 fois plus d'Algériens musulmans, on va dire, hein, pour faire vite, que d'Européens. Il y a 10 millions d'Algériens et 1 million d'Européens de pieds noirs. Et De Gaulle, on sait, dans des réflexions qu'il a faites devant ses amis, il dit, mais vous rendez compte, il va y en avoir bientôt 20 millions d'Algériens. Nous, notre population ne va pas croître au même rythme. Comment la métropole, où il y a 48 millions ou 50 millions de Français, peut-elle avaler 20 ou 30 millions d'Algériens? C'est impensable. Il ne peut pas y avoir intégration de cette population algérienne dans une république française, hein, de Dunkerque à Tamanrasset. Ça n'a pas de sens. Donc il faudra bien, de toute façon, arriver à un processus d'autonomie de l'Algérie. On ne sait pas trop comment, encore en 1960, il y a négociation. Ça va se passer certainement extrêmement mal. Parce que d'un côté, si vous voulez, les nationalistes algériens sont intransigeants. Ils veulent le pouvoir, point. Et ils veulent pas le partager, ils veulent pas une solution bâtarde où la France aurait encore un pied en Algérie, ils veulent l'indépendance. Et de l'autre côté, les populations européennes, elles ne veulent aucune concession au pouvoir nationaliste algérien, en quelque sorte. Aucune concession. Pour eux, ils veulent garder leur situation privilégiée dans l'Algérie. C'est impensable. Ils vont être victimes de leur propre extrémisme, en quelque sorte, parce que l'extrémisme des populations européenne d'Algérie va nourrir l'extrémisme des nationalistes algériens. Ça va très mal se terminer parce que ceux qui vont s'exprimer le plus fort en Algérie, ce sont les ultras. Alors, il y a aussi plein d'Européens d'Algérie qui se sont pas exprimés, qui, eux, auraient bien aimé rester dans une Algérie algérienne. Pourquoi ne pas être dans une république algérienne, mais rester en Algérie, leur pays, en quelque sorte. Mais les ultras vont dire, c'est tout ou rien. C'est le cercueil ou la valise. C'est le moment où naît l'OAS.
Organisation armée secrète.
Algérois, une armée des maquis s'organise. Ne rendez pas vos armes. Regroupez-vous. Tuez tous les traîtres, petits et grands.
Le tract est signé
OAS.
Voilà, organisation armée secrète. Ce sont des gens très armés. Ce sont des gens qui viennent de l'armée, de la police, des ultras d'Algérie, des services secrets, enfin il y a
des petites gens aussi, des ouvriers, hein. Les coups, les assassinats de l'OS, etc., ça se passait le samedi, parce que le samedi c'est la journée de repos des ouvriers.
Bien sûr, il s'est créé dès 55, il y avait des milices et des mouvements d'extrême droite, dans les affaires du Constantinois, etc., il y avait des milices, ils étaient armés, il y avait des pieds noirs, des fois c'était des fascistes, des fois c'était des crétins, mais de toute façon c'est des gens qui fusillaient, qui tiraient, qui assassinaient. Or, l'OAS va se couler là-dedans sans aucun problème. Hein. Et ils ont des armes, ils ont des explosifs. Ce qui est important aussi, c'est qu'ils vont aussi faire une campagne de terrorisme en France aussi. L'OAS va pas seulement assassiner des gens en Algérie. Ce qu'ils veulent, c'est assassiner tous les opposants. Ils sont partis dans une sorte de dérive complètement folle, quoi, en quelque sorte, parce que, bon, De Gaulle aussi, il a des arguments. Hein. D'abord, il a la police, une bonne partie de l'armée avec lui, etc. Et il va combattre cette OAS. Alors,
de manière aussi occulte, parce qu'il y a ces barbouzes à lui, à De Gaulle, il y a ce fameux SAC, Service d'Action Civique, donc ces espèces de barbouzes gaullistes qui vont aller combattre les gens de l'OAS en sous-main. Enfin, il y a des guerres secrètes, là.
Bien sûr, mais c'est une très très sombre histoire. 1961, il y a une tentative des généraux, un carteron de généraux, comme disait De Gaulle, Challes, Jouhans, Zeller, Salan, enfin disons, cinq officiers supérieurs veulent refaire le coup du 13 mai 58, mais contre De Gaulle cette fois-ci. Abattre De Gaulle pour remettre un gouvernement de salut public, c'est-à-dire un gouvernement qui poursuive la guerre en Algérie et refuse toute négociation avec le FLN.
L'armée française avait fait le serment solennel de garder l'Algérie dans la souveraineté française. Ce serment, nous venons aujourd'hui, au nom de l'armée, vous le renouveler.
Bon, ça va foirer, hein. Parce que De Gaulle a le soutien en métropole, tous les partis politiques, donc là cette fois-ci, y compris le PCF, la CGT, etc. Les gens se mettent en grève, etc. Et donc il a un soutien.
Ce pouvoir a une apparence, un carteron de généraux en retraite. Il a une réalité, un groupe d'officiers, partisans, ambitieux et fanatiques. L'avenir des usurpateurs ne doit être que celui que leur destine la rigueur des lois.
Ce carteron d'officiers supérieurs a certes l'appui de certaines unités de crâne rasé, quoi. Mais en revanche, la plupart des soldats du contingent, c'est-à-dire des gens qui font leur service militaire, vont pas marcher dans l'opération. Parce que eux, ils veulent rentrer. Ils en ont marre de la guerre, il y a des morts, hein. c'est une sale guerre. Hein. Et donc ils veulent rentrer. Et donc le putsch, en quelque sorte, va foirer, ça va être un échec. À partir de ce moment-là, bien sûr, la guerre secrète de l'OAS, la guerre des mouvements d'extrême droite, etc., de toutes les mouvances, etc., contre la République, va se déchaîner. Il va y avoir des attentats atroces, des assassinats, du plasticage. Plastique, hein, l'OAS dispose de très grosses quantités d'explosifs. Il y a des assassinats, il va y avoir des milliers d'assassinats aussi bien en Algérie qu'en France. Alors qui est visé ? Bah, tous les gens qui sont favorables à une solution négociée, à l'indépendance de l'Algérie, etc. Et l'OAS demande également de, puisqu'on va quitter l'Algérie, de tout casser, quoi.
Politique de la terre brûlée, et commet des actes irréparables qui fait qu'effectivement, en 62, beaucoup de pieds noirs vont se sentir obligés de partir. Ce qui n'était pas le cas d'ailleurs, hein, parce qu'on va revenir un peu sur ce que disaient ces accords d'Évian qui prévoyaient que les pieds noirs puissent rester. Ouais. Ce qui d'ailleurs, sur 1 million de pieds noirs, a été le cas de 200 000 d'entre eux qui sont restés après 62.
C'est exact, mais ça va se passer mal, très mal. Beaucoup de gens vont partir parce que on leur a dit, c'est pas possible, vous pouvez pas rester. En grande partie due à cette campagne de terrorisme d'extrême droite de l'OAS, etc., qui va creuser, si c'était possible encore, un fossé rempli de sang entre les deux communautés, en quelque sorte. Ça va également très mal se passer pour les auxiliaires algériens de l'armée française, les fameux harkis. Hein, il y avait je ne sais combien de milliers de combattants harkis dans l'armée française. C'était des Algériens qui s'étaient embauchés dans l'armée française et qui avaient donc participé à la guerre, considérés comme des traîtres, évidemment, par les nationalistes algériens. La France aurait dû les rapatrier, aurait dû les faire venir avec leur famille, etc. Mais on n'a pas voulu. Il faut dire que la France a dû avaler 600 000 pieds noirs qui sont venus d'Algérie, hein. Qu'il a fallu installer en France, et la République française a sans doute pensé que c'était trop coûteux d'installer les harkis. Alors, la minorité qui a réussi à revenir en France a été parquée dans des camps, dans des conditions atroces, sinon atroces, en tout cas scandaleuses, pour ces gens qui s'étaient battus pour la France, on les a mis dans des véritables camps, hein, entourés de barbelés, dans le sud de la France.
Pour caricaturer un peu, De Gaulle n'avait pas tellement envie que son bled soit rebaptisé Colombey les deux mosquées. Ces gens-là sont pas comme nous, ils ont pas la même religion, ils s'assimileront jamais, et même s'ils ont risqué leur peau pour la France, bah, ça reste quand même des musulmans, ça c'est très embêtant.
Ben bien sûr, d'autant que les ratonnades, ça existait, alors il faut maintenant qu'on évoque les ratonnades à Paris du 17 octobre 61 et la manifestation du métro Charonne. Qu'est-ce que c'est que cette grande manifestation algérienne à Paris? C'était pour accélérer les négociations, car les négociations traînaient. Je vous ai dit tout à l'heure que le gouvernement français essayait de négocier et d'obtenir au maximum des nationalistes algériens, concernant le Sahara en particulier, hein, puisqu'on y faisait déjà des explosions nucléaires, hein, à Reggane, dans le sud du Sahara. Donc les négociations traînaient, avec son cortège de morts, etc., de drames et trucs comme ça. Et le FLN en France décide d'organiser une grande manifestation. Alors, il y avait une organisation FLN en France qui récoltait de l'argent pour le combat de l'armée des nationalistes algériens, de l'ALN, Armée de Libération Nationale. Donc, il y avait des passeurs, hein, les fameux porteurs de valises, qui étaient des gens qui passaient de l'argent en Algérie pour le combat des nationalistes algériens, récolté auprès des travailleurs algériens en France. Il y avait à l'époque plusieurs centaines de milliers de travailleurs, en particulier dans la région parisienne, hein, travailleurs algériens, qui habitaient dans des bidonvilles. La Grande République française avait encore à l'époque beaucoup de bidonvilles, des grands bidonvilles dans la périphérie parisienne. Donc les militants FLN en France demandent aux Algériens de venir manifester sans armes, pacifiquement, à Paris, pour demander au gouvernement de Gaulle d'accélérer les négociations, en quelque sorte. Le préfet de police interdit la manifestation. Alors le préfet de police, c'est pas n'importe qui, c'est Papon. Ce type qui, étant secrétaire de préfecture de la Gironde pendant la guerre, a fait déporter des juifs avec également des enfants, les femmes et les enfants juifs en Allemagne. Alors ce type s'est reconverti, hein, il a été récupéré par la savonnette gaulliste, hein, il est devenu un haut fonctionnaire, il a été d'abord préfet à Constantine, je crois, en Algérie, mais ensuite après il est devenu préfet de police à Paris. Et la police parisienne est noyautée à l'époque par des gens d'extrême droite et tape très fort sur les manifestants, etc. Et il y a des fascistes dans l'armée, dans la police parisienne, il faut le dire quand même, hein. Et là, la police française va se rendre coupable d'un massacre de travailleurs algériens, ratissage, ratonnade, tabassage. Les gens sont tabassés, assommés, balancés dans la Seine. On ne sait pas combien il va y avoir de morts, mais on pense qu'il y a eu plusieurs centaines de travailleurs algériens qui vont être assassinés, dont certains dans la cour de la préfecture de police de Paris, par les flics parisiens. J'étais enfant à l'époque, en Seine-Maritime, à Notre-Dame-de-Gravenchon, dans la Basse-Seine. J'étais copain avec le fils du brigadier de gendarmerie de Gravenchon. Il me disait que son père allait reconnaître tous les jours, allait repêcher les cadavres qui venaient de Paris, qui défilaient au long de la Seine. Et mon père m'en parlait aussi, il était ouvrier dans une raffinerie qui était au bord de la Seine. Et l'histoire des cadavres qui dérivaient depuis Paris jusqu'à l'estuaire, c'était pas un mythe, c'était une réalité. Des dizaines de corps ont été repêchés, d'autres se sont perdus, mais d'ailleurs il y a un cimetière, hein, dans la région parisienne où on a enterré ces gens-là, des fois sous l'anonymat, hein, ils ont été assassinés, ils n'avaient plus de papiers, etc. Pour certains, ça a été très compliqué pour les familles de reconnaître. Bref. Cette journée qui a été longtemps occultée, alors, à part un ou deux reporters, dont Mermet, je crois d'ailleurs, à l'époque, hein, Mermet a parcouru ces lieux du massacre, donc il y a eu quelques photographes et quelques reporters, mais sinon, la presse n'en a pas parlé, totalement occultée, on a massacré peut-être 400 Algériens, et peut-être plus, hein, à Paris, on les a regroupés dans des stades, on les a massacrés, etc. Dans des gymnases, hein. Et dans le métro, enfin, on a massacré des gens comme ça à Paris, la police, hein. Bien sûr, couvert par De Gaulle, le Papon n'a pas fait ça sans avoir l'aval de De Gaulle, quoi. La presse n'en a pas parlé. Ça a été totalement oublié. Il a fallu qu'un journaliste, 40 ans après, ressorte cet événement inaudit, je crois. Alors, il y avait des locaux, des services spéciaux de la police à Paris, comme le Gestapo pendant la guerre, qui torturaient et assassinaient des gens dans Paris. Des gens de la police, officiels ou non officiels, parce que c'est vrai que le système des barbouzes a été mis au point à l'époque. L'histoire Benalla, c'est une fleur à côté du système qui a été installé par les auxiliaires de De Gaulle à l'époque. Enfin, il y avait des barbouzes, bien, c'était pour la bonne cause, hein. Il s'agissait de la lutte contre l'AES, mais en même temps, bien sûr, hein, tous les gens qui pouvaient s'opposer à la politique menée par De Gaulle ont recouru à l'assassinat.
Il y a aussi cette fameuse manifestation du métro Charonne.
Bah oui, pour protester contre l'OAS et contre ces mouvements d'extrême droite, etc., et ces brutalités et la campagne de terrorisme menée par l'OAS, le Parti communiste et la CGT décident de faire une manifestation en 1962 pour demander également qu'on accélère les négociations, la fin de la guerre de l'Algérie. Et de cette manifestation va être matraqué brutalement par la police de Papon, puis mort, je crois, au métro Charonne, hein, dont des femmes et un jeune de 16 ans, etc., tous militants du Parti communiste, qui vont être précipités dans une bouche de métro, avec, on va leur balancer des plaques d'égout, etc., et c'est 8 morts quand même, hein. Il y aura une énorme manifestation lors de leurs obsèques pour protester contre le fascisme dans la police parisienne. C'est assez énorme quand même. Il faut voir la brutalité de cette époque-là quand même. Il va y avoir aussi une tentative d'assassinat de De Gaulle.
Petit Clamart, ça.
Petit Clamart, où les éléments d'extrême droite vont essayer d'assassiner De Gaulle. Alors, De Gaulle s'en sort miraculeusement, la baraka, et ça va déterminer De Gaulle à modifier la Constitution et à instaurer l'élection du président de la République au suffrage universel. La première élection en 58 du premier président de la Ve République, De Gaulle, c'est une élection qui est faite par un collège de 60 000 grands électeurs, députés, sénateurs, maires, conseillers généraux, etc., etc. Un collège d'élus qui va élire De Gaulle. À partir de 62, on décide que pour les prochaines élections qui auront lieu en 65, ce sera au suffrage universel, le système qui existe encore aujourd'hui. Avec une différence cependant, c'est que bon, c'est le septennat encore à cette époque-là, bien sûr, qui a instauré et non pas le quinquennat.
La constitution de cette 5e République, accouchée dans un coup d'État militaire par un putschiste doublé d'un dictateur, consacre donc l'excessif pouvoir d'une monarchie présidentielle où le Parlement ne pèse pas grand-chose. On a d'ailleurs beaucoup critiqué la 4e République comme un régime pas assez stable, car trop parlementaire, trop représentatif, trop démocratique.
On dit toujours que c'est les gens qui gagnent, qui imposent leur histoire, en quelque sorte. Et De Gaulle, il va imposer son histoire, c'est-à-dire la 4e République, régime des partis, régime instable, qui n'a pas de volonté, qui n'a pas de pouvoir, etc. Bon, en deux mots, la 4e République, effectivement, est un régime qui a vu se succéder de très nombreux gouvernements. Très nombreux gouvernements, il y avait une certaine instabilité. Pourquoi ? Bien sûr que c'est dû aux circonstances, c'est pas dû à la forme, au fonctionnement de la 4e République. Qu'est-ce que c'est que la 4e République ? C'est un système parlementaire, comme il y en a en Italie, en Belgique, en Hollande, voire en Angleterre. C'est un système parlementaire, c'est-à-dire que l'exécutif, le gouvernement, chargé d'exécuter les lois, est contrôlé par le pouvoir législatif, c'est-à-dire les représentants du peuple, ce sont les députés. Ils font les lois et en surveillent l'exécution. le système le plus démocratique qui peut exister en quelque sorte. D'ailleurs, la 4ème République, on lui doit après la guerre le système de protection sociale et toute une série de législations sur lesquels ont vécu les Français pendant des années, et pour leur plus grand bien, en quelque sorte. Hein.
Et grâce aux communistes, d'ailleurs. Hein.
Oui, disons-le, le système de sécurité sociale doit beaucoup au Parti communiste et à des militants de la CGT, du Parti communiste, Ambroise Croizat et autres, qui ont été les principaux artisans de cette législation dont ont profité les Français, quand même. Mais pour revenir à la 4ème République, pourquoi est-ce qu'il y a eu cette instabilité, en particulier vers la fin, mais pas seulement. Hein. Tout d'abord, la guerre froide, qui se déclare en 1947, avec le discours de Truman, de Harry Truman, en mars 1947, la guerre froide va exclure le Parti communiste de la vie politique en France. C'est-à-dire que le Parti communiste, qui constituait un quart de l'électorat en France, après la guerre, va être exclu de la vie politique, puisque les Américains exigent que l'on vire les communistes des gouvernements pour appliquer le plan Marshall, etc., et la politique américaine. Et donc, on décide que les communistes ne sont pas des bons Français, qu'ils sont au service de Moscou. Hein. On les exclut de la vie politique. Et donc, il faut faire une majorité au Parlement, pour obtenir un gouvernement qui est investi par le Parlement, par l'Assemblée nationale, il faut faire une majorité en excluant les 25% de députés communistes. Ainsi, le système est-il très instable, parce que former une majorité parlementaire sans ces 25% de voix communistes à l'Assemblée, c'est très délicat. Alors ça va obliger évidemment les partis à des contorsions entre la gauche, la droite, entre la SFIO, le Parti Socialiste, et le MRP, qui est la droite modérée, et puis il y a aussi une droite plus dure, et puis il y a aussi des petits partis charnières, genre UDSR de Mitterrand, ou Parti Radical, centre-droit, centre-gauche, enfin c'est assez compliqué, et ça fait des combinaison difficile. Et c'est d'autant plus délicat que la 4ème République va se confronter avec les problèmes de la décolonisation ou des guerres coloniales. Guerre coloniale d'Indochine d'abord, puis guerre coloniale d'Algérie. Et ces événements graves, en quelque sorte, qui auraient bien sûr exigé d'avoir des gouvernements plus stables et plus cohérents, ça va aggraver les choses. Donc ce sont plus des raisons conjoncturelles que des raisons de fonctionnement. Car la 4ème République, c'est un système très très démocratique. Et à l'époque, par exemple, le mode d'élection est un mode d'élection qui, au départ, est un mode d'élection proportionnel. Si tu as 20% des voix, tu as 20% des députés. Alors la 5ème République, ça va changer tout ça. De Gaulle veut un pouvoir exécutif fort, en fait. Il veut une monarchie élective, hein. Ça c'est absolument certain. Donc il va y avoir un exécutif très fort, un système présidentiel mais très fort, avec élection du président de la République à partir de 62, élection du président de la République au suffrage universel, directement par les Français. Et à côté, élection des députés également au suffrage universel. Il est préférable qu'il y ait la même majorité, disons que le président de la République ait une majorité au sein de l'Assemblée, c'est nécessaire pour gouverner. Alors on va tout faire pour. Alors, tout d'abord, bon, le président de la République élu au suffrage universel a des pouvoirs très étendus. Hein, il désigne d'abord le Premier ministre qui forme le gouvernement. Donc c'est lui qui dirige en fait la politique. Hein. Il a des secteurs réservés, hein, politique étrangère, politique coloniale, enfin ou néocoloniale africaine, etc. Un certain nombre de sujets sont des sujets directement gérés par l'Élysée et donc qui échappent au gouvernement. Bon, ce gouvernement est responsable devant un parlement qui est élu avec un système de suffrage très différent. Alors, d'abord, les pouvoirs du parlement sont réduits par rapport à ceux de la 4ème République. Alors, sous la 4ème République, les députés demandent des comptes aux ministres, individuellement, ou au Premier ministre, mais sous la 5ème République, c'est très codifié. Il y a une journée par semaine où les députés ont le droit de poser des questions aux ministres. C'est pas tout à fait la même chose. Ensuite, le calendrier de l'activité des parlementaires n'est plus décidé par les parlementaires eux-mêmes. C'est le Premier ministre qui décide quel sera le calendrier et quel sera l'ordre du jour du Parlement. En quelque sorte, le Parlement n'est plus libre de savoir ce sur quoi on peut discuter, etc. Ensuite, il y a toutes sortes de procédures pour que le gouvernement échappe au contrôle ou échappe au vote des députés. Et en plus, pour censurer le gouvernement, c'est assez compliqué. L'article 49, alinéa 3 ou alinéa 2, 4, etc. Enfin bon, tout ce qui concerne la censure du gouvernement est très compliqué. Alors que c'était beaucoup plus simple sous la 4ème République, il y avait, disons, une démocratie plus directe, je dirais, c'est-à-dire les représentants du peuple demandaient à l'exécutif, comme son nom l'indique, l'exécutif devait exécuter. Alors que là, c'est un petit peu l'inverse, en quelque sorte. Et puis, autre chose aussi, on parle de la séparation des pouvoirs, c'est de la connerie, tout ça, législatif, exécutif, sous la 5ème République, le régime dans lequel nous sommes actuellement, il y a complètement confusion des pouvoirs. L'exécutif a tous les pouvoirs, y compris de faire la loi, d'ailleurs. Car la plupart des lois, ce sont des projets de loi gouvernementaux, ce ne sont pas des propositions de loi de l'Assemblée. La plupart des lois sont produites par l'exécutif. Donc il y a bien confusion des pouvoirs. Quant au pouvoir judiciaire, bon, bah, ça a toujours été en France, hein, il y a soumission du pouvoir judiciaire à l'action des législateurs et de l'exécutif. Hein, ça, c'est, il n'y a pas d'indépendance. Hein, ça, c'est, on met bien sûr un conseil d'État, un conseil constitutionnel, tout ça, mais il n'y a pas de pouvoir judiciaire réellement en France. Hein.
Alors évidemment, cette cinquième, elle a été taillée par et pour De Gaulle, alors qui était ce qu'il était, hein, mais qui avait quand même une certaine idée de la France. Et certes, De Gaulle se considérait comme un dictateur, mais un dictateur plébiscitaire, c'est-à-dire conforté régulièrement par le peuple. Si en 58, De Gaulle fait un référendum, en fait la question sous-jacente c'est « voulez-vous que je reste le dictateur ou pas ?» En 58, les électeurs disent oui. Arrivent les événements de mai 68... Et là, De Gaulle repose... Alors, c'est une question détournée, hein, voilà, mais en fait, la vraie question que De Gaulle pose en 69 aux électeurs, c'est en gros, voulez-vous que je reste ou pas? Et cette fois-ci, les Français votent non. Et De Gaulle s'en va. Et on peut regretter, évidemment, que tous les politiciens sans scrupules qui ont défilé sur le trône de France après De Gaulle, bah, malgré tous les griefs qu'on peut avoir vis-à-vis du général, n'avaient quand même pas la moralité de De Gaulle. Tout un tas de voyous, hein, on pense à Chirac notamment, et d'autres, hein, et celui qu'on a en ce moment aussi, il y a fort à parier qu'il s'accrochera comme une moule à son rocher, alors qu'on voit bien que le peuple ne veut plus de lui. Tous les politicards qui ont défilé sur le trône de France après De Gaulle n'avaient pas ces valeurs morales et politiques toutes critiquables qu'elles aient été. Cette cinquième qui a été faite pour De Gaulle, finalement, n'allait qu'à lui.
C'est vrai ce que tu dis. De Gaulle instaure un système d'exécutif très fort et de quasi-monarchie, hein, élective. C'est-à-dire sans vrai contrôle. Hein. Je rappelle aussi l'article 16, hein, qui donne tous les pouvoirs en cas de crise. Le président de la République peut prendre tous les pouvoirs après consultation rapide du président de l'Assemblée ou du président du Sénat. En fait, De Gaulle prend tous les pouvoirs. Bon. Mais De Gaulle, effectivement, avait une certaine idée du bien public et de l'intérêt national. Ça fonctionnait dans la mesure où sa légitimité, en tout cas jusqu'en 69, n'a pas été remise en cause. Il y avait une certaine légitimité. Il est vrai aussi qu'il n'y avait pas crise à l'époque. Il y avait une situation de plein emploi. Il n'y avait pas de crise sociale grave, hein, comme il y a aujourd'hui. Le problème, c'est que ces institutions, ensuite après portées par d'autres gens, là, ça devient dramatique parce que on arrive à aujourd'hui avec Macron au stade final, ultime du système. On a un système monarchique avec quelqu'un qui n'est pas légitime dès le départ, qui est très contesté. Alors qu'il a tout pouvoir, ça ressemble quand même à une dictature qui ne veut pas dire son nom, ou en tout cas une tyrannie d'une constitution pseudo-démocratique. Et c'est insupportable. Et encore, je n'ai pas parlé du mode d'élection des députés, dès le départ, un déni de démocratie. Hein.
Debré fait des découpages électoraux aberrants qui permettent de conforter la majorité du général.
Et oui, regardez, en juin 58, premières élections législatives, c'est-à-dire à l'Assemblée nationale, élection des députés, le parti gaulliste UNR obtient le même nombre de voix que les communistes. Les communistes ont 10 députés. Et l'UNR en a 160. Et bon, Ah, voilà comment on a réglé le problème du Parti communiste qui faisait chier, quoi, en quelque sorte. Et plus tard, ce sera la même chose avec le Front National. Comment on se débarrasse des 20% de Front National? Parce que si il y avait des élections à la proportionnelle aux députés, bah on aurait 20% de députés du Front National, d'accord ou pas d'accord, ça s'appelle la démocratie, quoi, en quelque sorte. Pour régler le problème, on a aujourd'hui des députés Macron qui sont encore moins légitimes, mais qui ont la majorité absolue, alors qu'ils ne représentent même pas 20% de l'électorat. C'est un système qui n'est pas démocratique, c'est sûr, c'est un système qui est hautement contestable, et il ne faut pas s'étonner que les gens cherchent d'autres biais que le fonctionnement républicain démocratique pour faire valoir leurs revendications.
Et on signalera au passage que des formations politiques comme la France Insoumise, dans son programme, propose une constituante, la sortie de la 5e République et la création d'une 6e République plus démocratique, plus représentative, qui ne soit pas née à l'occasion d'un coup d'État militaire.
C'est sûr que les origines de la 5e République, malgré les mérites de De Gaulle, hein, ont marqué les institutions de la 5e République. C'est quand même une République qui est née dans les complot barbouzard, dans la violence et dans l'arbitraire. Aujourd'hui, c'est insupportable pour beaucoup de gens. Et il faudrait changer de... Je pense que la revendication d'un changement de république va devenir majoritaire en France.